France Culture.
France Culture. La Fabrique de l'Information, François Seltiel.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Fabrique de l'Information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. Il y a tout juste une semaine, s'achevait à Belém au Brésil la COP30 dans une relative indifférence et un sentiment de déception des militants engagés dans la cause environnementale. Les objectifs s'éloignent, tout comme les rédactions de médias généralistes qui s'intéressent moins à ce sujet qualifié un temps d'enjeu du siècle. Lassitude, impuissance, des intérêts ou pressions économiques, il sera intéressant d'analyser les ressorts de cette mise à distance. Et au-delà de ce phénomène, se propage dans notre paysage médiatique un brouillard désinformationnel. L'association Cota Climat révèle 128 cas de désinformation climatique sur les 18 principales chaînes de télévision et de radio pour le seul premier trimestre 2025. CNews est depuis peu la première chaîne de télévision condamnée par le Conseil d'État à une amende pour désinformation climatique. Quant à Sud Radio, un cas problématique autour de l'information et détecter toutes les 40 minutes de programme consacrées à ce sujet. La mésinformation consiste à laisser passer une information inexacte sans intention manifeste de manipulation. Faut-il y voir ici un manque de formation ou de connaissance des journalistes sur cette thématique? Des journalistes qui restent encore contactés, sollicités, parfois démarchés par les grandes entreprises industrielles pour faire passer leur narratif. Quels sont donc les mécanismes de la désinformation sur le dérèglement climatique et comment s'en prémunir? Trois invités pour y répondre. Eva Morel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire générale de l'association Cota Climat, dont la mission est d'alerter les médias sur le traitement des questions environnementales et d'objectiver la propagation de la désinformation. Vous avez également travaillé plusieurs années au sein de l'Assemblée nationale. Vous connaissez donc bien les rouages du lobbying des grands acteurs industriels. À vos côtés, Cyril Dion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur, auteur et militant écologiste. Votre film documentaire Césarisé demain, co-réalisé avec Mélanie Laurent, sera bientôt de nouveau à l'affiche au cinéma, 10 ans après sa sortie, qui avait particulièrement marqué les esprits. Alors du demain d'hier au demain d'aujourd'hui, ce sera l'occasion de faire un bilan et vous nous parlerez évidemment de votre projet en cours sur la démocratie. Laurent Cordonnier complète ce plateau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences sociales, directeur de la recherche à la Fondation Descartes et vos études portent sur les questions relatives à la désinformation à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux. Cette semaine, une nouvelle chronique de la rédaction de Courrier International, notre partenaire qui veille, sélectionne et traduit le meilleur de la presse étrangère. Sacha Mitchell est au micro pour sa première. Bonjour Sacha.
Bonjour et ravi d'être présent.
Avec un sujet qui reste dans le thème consacré à...
À l'humour pour sensibiliser au sujet lié à la crise climatique.
Voilà, l'humour peut-être comme outil pour sensibiliser avec ses atouts et peut-être ses limites. On en parlera en fin d'émission. Vous avez le programme complet de l'épisode 13 de La Fabrique. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre en direct ou en podcast sur l'application Radio France.
D'abord, on va peut-être rappeler ce que c'est, le greenwashing.
Oui, c'est une méthode malhonnête, hein, utilisée par certaines personnes pour faire croire qu'elles sont vertueuses sur le plan écologique. C'est tout simplement de la diffusion de fausses informations.
Article de Libération, daté du 17 novembre 2025. Comment faire pour donner une bonne image? Juste avant la COP30 au Brésil, Total Energy a une solution. Organiser un voyage de presse pour montrer ses investissements dans le pays et tenter de redorer son blason. L'entreprise a donc invité 4 journalistes français travaillant pour Le Figaro, Les Échos, Challenge et Green Univers.
Hello everyone, welcome to the United Arab Emirates.
Et cette voix, c'est celle du chercheur François Gemène, spécialiste des questions de migration et d'environnement. La vidéo a été publiée par le géant des matériaux Saint-Gobain et a engagé pour l'occasion le scientifique qui fait la promo du groupe.
Au Brésil, l'ONG Action Climatique contre la désinformation a enregistré une augmentation de 267% des publications climato-sceptiques entre juillet et septembre dernier.
Pourquoi ? Pour créer du ressentiment de la part des Brésiliens envers leurs autorités, mais aussi envers les gens qui travaillent sur ces conférences climatiques.
Sud Radio et CNews sont les champions de la désinformation climatique. Dès qu'il y a un programme d'info, Sud Radio sort une désinformation sur le climat toutes les 40 minutes, une fois par heure sur CNews.
Oui. Ça fait 25 ans que je travaille avec
CNews. Oui, mais vous pouvez vous tromper depuis 25 ans, madame.
CNews viennent d'être condamnés à payer une amende pour désinformation climatique. 20 000 euros à payer, c'est une première en France.
Alors, je parlais de déception au retour de cette COP, mais peut-être quelques motifs de réjouissance, Eva Morel, notamment la notion d'intégrité de l'information climatique, c'est au cœur de notre sujet. Et ça a été au cœur, justement, des débats là-bas, du côté de la COP, avec une première déclaration internationale visant à protéger l'information. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ?
Je pense qu'on peut en attendre beaucoup, parce que c'est le début d'une prise de conscience sur le sujet. Mais il ne faudrait pas que ça nuance les attaques à la science qui se sont fortement manifestées pendant la COP et qui ont beaucoup alerté les observateurs. Donc honnêtement, c'était assez inquiétant.
Mais justement, le fait qu'il y ait un cadre, qu'il y ait cette déclaration, ça montre bien que le phénomène prend de l'ampleur. C'est-à-dire que s'il était à reculons, on ne s'amuserait pas à essayer de trouver un cadre pour le formaliser et le combattre.
Oui, en fait, on a observé une dynamique double et vraiment... En parallèle, qui était assez frappante, dans les salles de négociation, ça négociait sur des engagements pour lutter contre la désinformation climatique. Et en parallèle, il y avait des délégations en tant que telles qui incarnaient une espèce d'obscurantisme climatique qui était de plus en plus assumé au vu des déclarations de Trump. Et ça, c'était, ça montrait en fait l'urgence d'agir sur le sujet avec des engagements concrets de la part des États.
Avec quel genre de déclaration ?
Cyril Dion, qui pose sa question, et il a bien raison, et parce qu'il est intéressé. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y avait deux chambres. Alors, une chambre de la désinformation qui essaie de l'analyser, et une autre chambre qui était plutôt dans l'action.
Je vais prendre l'exemple de plusieurs délégations qui ont tenu des propos assez frappants sur le sujet. L'Arabie Saoudite, le Kenya, l'Inde et la Chine. La Chine, c'était un peu plus déguisé d'ailleurs, et c'était intéressant. Il passait par d'autres délégations pour tenir un propos qui était frontalement plus acceptable en matière de climat, mais derrière... un peu moins. Et par exemple, un des arguments phares était de dire que dans les rapports du GIEC, la science des pays du Sud n'était pas prise en considération et que c'était un problème notamment pour les items adaptation et pertes et dommages. Pourquoi ? Parce que dans ces items-là, comme la science locale est beaucoup plus précieuse pour comprendre les impacts et comment s'adapter au changement climatique et à ses effets, on a besoin d'avoir des études locales. Et cet argument était vraiment donné dans quasiment chacune des salles de négociation, notamment parce que cette année, l'adaptation climatique, c'était un des gros sujets de négociation. Et en fait, cet argument est faux, puisque la littérature grise, donc qui n'est pas revue par les pairs et qui n'est pas forcément publiée, est aussi incorporée dans les rapports du GIEC concernant ces items, précisément parce que les scientifiques savent qu'ils avaient une carence de connaissances sur ces sujets et qu'il fallait l'incorporer. Et donc les scientifiques qui assistaient à ça, qui n'ont pas le droit de parole dans les salles de négociation, étaient frappés, puisqu'ils disaient « mais personne ne réagit », y compris les négociateurs des pays qui sont plutôt progressistes en matière de traitement de la science. Et en fait, ça a conduit à des reculs tangibles sur des mentions dans des textes. Et je vais prendre un exemple. Dans l'item qui s'appelle RSO, donc c'est Research and Systematic Observations, il y a un premier paragraphe qui a été entièrement supprimé. Et le deuxième indiquait qu'il fallait continuer à encourager le GIEC à produire de la science dans les prochaines années. Et ça a été supprimé sur la base de cet argument, sans objection. Et ça, c'était assez frappant.
Mais donc concrètement, parce que quand vous percevez des éléments de langage qui sont similaires dans les déclarations venant d'un pays à l'autre, c'est là où on peut déceler une sorte d'entreprise, de volonté de manipulation de l'information.
En fait, complètement. Et je pense que c'est complètement acceptable aujourd'hui de dire que c'est une stratégie assumée de la part de certains États de faire preuve de mauvaise foi. La seule chose qui est un peu compliquée aujourd'hui, c'est que la notion de désinformation... À partir du moment où on n'est plus d'accord sur un socle tangible de faits ou de science, c'est compliqué de dire ce qu'elle est. Mmh. Et c'était vraiment le débat qu'il y avait. Par exemple, à un moment donné, l'Union européenne a introduit la notion de désinformation climatique, plutôt de mésinformation d'ailleurs climatique, dans un texte. Et l'Arabie saoudite a pris la parole en disant « Mais à quoi vous faites référence quand vous parlez de mésinformation ? Définissez le terme, quelle est votre référence scientifique ? Pour nous, c'est subjectif. » Et partant du fait que ce soit subjectif, ça n'a pas été inscrit, ça a été retiré. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu tout un effort aussi sur la sémantique utilisée dans le cadre des négociations. On parlait plus de désinformation ou de mésinformation, on parlait d'intégrité de l'information. Et c'est une stratégie qui était adoptée par le Brésil quand ils ont mis le sujet à l'agenda de la COP, parce que ça permettait de détourner ces débats et de dire, en fait, personne ne peut être vraiment contre l'intégrité. Enfin, être contre l'intégrité, ce serait vraiment... un problème, même pour un État autoritaire.
Alors, vous me dites si je me trompe, mais pour nos auditrices, auditeurs, la différence entre la désinformation et la mésinformation, c'est potentiellement de ne pas contredire une contre-vérité, notamment sur un plateau d'une émission de radio ou de télévision, peut-être par méconnaissance ou par inadvertance. Donc ça, c'est de la mésinformation, une fausse information qui passe par mégarde, tandis que la désinformation, il y a une intention de nuire, il y a une intention de manipuler. Donc c'est comme ça qu'on peut peut-être définir les deux, entre mésinformation et désinformation ?
Oui, je pense que c'est une bonne définition. La seule chose, c'est que l'intentionnalité, elle est souvent très difficile à démontrer et que souvent, on a des faisceaux d'indices qui l'indiquent, mais c'est compliqué de le démontrer. Donc nous, typiquement, dans nos rapports que vous avez cités en introduction, on détermine la désinformation à partir du moment où une fausse information circule de manière suffisamment volumique pour se dire que c'est un faisceau d'indices important pour dire que quelqu'un est à l'origine et a un intérêt à l'amplifier, que ce soit les modèles algorithmiques qui amplifient des informations qui soient haineuses, virales, etc. Que ce soit les médias de type Bolloré, CNews qui en fait assez sciemment désormais diffusent ça sur leurs antennes, ou que ce soit des acteurs de l'industrie fossile qui étaient très présents à la COP, et je pense qu'il faut le rappeler puisque c'était assez choquant, même Patrick Pouyanné a été réintégré à la délégation française alors que c'était plus le cas ces dernières années, et ces personnes-là tiennent ces propos auprès des décideurs.
Cyril Dion, vous qui suivez ces sujets depuis bien longtemps, est-ce que on peut vraiment parler d'un retour en arrière, c'est-à-dire, enfin, du moins c'est l'impression qu'on peut en avoir, et comment on peut l'expliquer globalement ce retour en arrière? C'est-à-dire que on sentait que la cause écologiste était quand même très présente dans les médias, et puis elle l'a été un petit peu moins, et justement ces mécanismes qui viennent d'être décrits par Eva Morel de désinformation se propagent.
Je crois que c'est la deuxième fois en fait qu'on vit ce phénomène-là, donc on a tendance à appeler un backlash, c'est-à-dire une sorte de retour de flamme. Dans les années 70, il y avait la question écologique était extrêmement présente, à la fois chez les militants. En 1970, il faut quand même se rappeler que le premier jour de la Terre, il y avait 20 millions d'Américains dans les rues. On a du mal à imaginer 20 millions d'Américains aujourd'hui qui manifesteraient pour qu'on fasse quelque chose pour le climat ou pour la biodiversité. Et en 1977, on se souvient encore de Carter qui mettait des panneaux solaires sur le toit de la Maison Blanche. Enfin, il y avait un mouvement. Il y avait eu Rachel Carson, il y avait eu le rapport Meadows, enfin le Halte à la croissance, le rapport du Club de Rome. Et dans les années 80, on a vu vraiment un retour en arrière manifeste où les libéraux ont réussi à balayer tout ça en construisant sciemment, là aussi, de la désinformation, c'est-à-dire en finançant des études. On l'a documenté maintenant, que ce soit pour Exxon aux États-Unis, que ce soit pour Total et Elf en France, des études qui remettaient en cause la réalité du changement climatique ou la dimension anthropique de tout ça. Est-ce que c'est vraiment la faute des humains si le climat se réchauffe ? Et ces rapports qui ont été produits par des scientifiques qui ont été d'une certaine manière corrompus, c'est-à-dire qui ont été payés pour faire de la fausse science, ont permis pendant des décennies de retarder l'action publique. Là, on voit que le même phénomène est à l'œuvre, c'est-à-dire que voyant que la question écologique prenait de plus en plus de place, il y a des intérêts économiques qui ont commencé à s'inquiéter, légitimement, de leur point de vue, en se disant, si on arrête d'utiliser des énergies fossiles, si on arrête d'utiliser nos produits chimiques dans l'agriculture, ça va créer des problèmes pour nos profits. Donc, il faut qu'on organise le contre-feu.
Il faut qu'on arrive à reprendre la main. Ce que vous évoquez très bien avec l'exemple des années 70, qui était un moment où justement la société civile était très présente dans l'espace public. Vous parliez des États-Unis, on est à un moment de manifestation, de défense des droits, et donc les années 80 qui reprennent, qui essayent de fermer cette contestation-là, et vous nous dites qu'on est en train de vivre la même chose dans la deuxième phase, c'est-à-dire la reprise en main d'un pouvoir économique qui craint pour ses intérêts.
Exactement. Moi, je l'ai vu de façon assez frappante, parce que on voit une corrélation quand même très forte entre le fait que la question écologique soit très présente dans les médias, ce qui a été le cas en 2018, en 2019, en 2020. On se souvient que Nicolas Hulot démissionne en août 2018, que ça crée un grand mouvement en France avec des marches pour le climat.
Au micro de France Inter.
Exactement, qui avait tout le mouvement des jeunes derrière Greta Thunberg qui a emboîté le pas, qui a eu l'affaire du siècle, qui a eu la Convention citoyenne pour le climat, et qu'il y a eu Extinction Rebellion en Angleterre, et qu'on a aussi vécu des événements climatiques forts. On a battu le record de 47 degrés dans le Var en 2019, donc des sécheresses, des canicules. Ce qui a fait que, dans les médias, un mouvement qui avait commencé au moment de la COP21 s'est amplifié, et qu'on en a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que, comme par hasard, ça s'est traduit dans les urnes, c'est-à-dire que les écologistes ont fait des très bons scores aux élections européennes en 2019, ils ont eu des résultats absolument inespérés en 2020 au municipal, et que petit à petit, en fait, cette question est devenue centrale. Et que, moi, je l'ai vécu, par exemple, au moment de la Convention citoyenne pour le climat, quand les citoyennes et les citoyens tirés au sort ont sorti leur rapport, on a vu une levée de boucliers extraordinaire d'un certain nombre de secteurs économiques qui ont vu un danger, vraiment, profondément, et qui se sont mobilisés pour commencer à détricoter ces propositions et qu'elles ne passent pas dans la loi. Et depuis, un certain nombre de personnes se sont intéressés justement à ces think tanks qui se sont créés pour construire des éléments de langage, pour envoyer des gens sur les plateaux, pour infiltrer aussi des écoles. Et on voit aujourd'hui, par exemple, on parlait tout à l'heure de Vincent Bolloré, on pourrait aussi parler de Sterrin, qui sont des milliardaires qui ont vraiment un agenda idéologique, c'est-à-dire qui ont investi une partie de leur fortune pour acheter des médias, pour infiltrer des écoles, pour produire, là encore, de la science ou de la fausse science qui permettent à des partis politiques de remporter des victoires électorales, mais qui permettent aussi d'opérer des retours en arrière sur un certain nombre de législations. Là, on voit ce qui se passe, par exemple, au Parlement européen en ce moment, où on est en train d'essayer de faire voler en éclats tout un tas de règles qui protègent encore un peu la planète, si on veut être schématique.
Alors, vous parliez à l'instant de Vincent Bolloré. Je vous propose d'écouter un extrait de Michel Onfray sur la chaîne CNews. Et puis, Laurent Cordonnier pourra, juste après, le commenter.
La prochaine civilisation sera la civilisation de la fin des civilisations. Musk qui travaille. On voit bien que le réchauffement climatique, alors tout le monde est dans le réchauffement climatique à cause des hommes, etc. Ça, c'est une chose. Une autre chose est que l'astrophysique nous enseigne qu'il y a un réchauffement climatique qui est dû à ce qu'on appelle les plurivers, les multivers, les interactions entre les univers. Mais pour ça, il faut faire un peu d'astrophysique. Et voir que, de fait, la planète est en train de devenir invivable, donc inhabitable. Et s'il travaille avec SpaceX pour aller dans l'espace, s'il travaille avec Tesla pour avoir les datas de tout le monde, s'il travaille avec Neuralink, le puçage des gens, etc., c'est pour préparer une autre civilisation.
Michel Onfray, donc très récemment sur la chaîne CNews. On voit là quand même, Laurent Cordonnier, que la question n'est pas tant de remettre en question le réchauffement climatique, mais plutôt ses origines, et on va chercher à dédouaner le plus possible l'origine humaine.
Oui, d'ailleurs, c'est ce que nous rappelait Eva Morel tout à l'heure au cours des discussions auxquelles elle a pu participer au sein de la COP. Ce qu'on voit, c'est une entreprise de fabrique du doute. En réalité, comme on a pu l'entendre sur le tabac, par exemple, à une époque, où il s'agit moins de dire le dérèglement climatique n'existe pas ou n'est pas du tout causé par l'activité humaine, que de dire on ne sait pas très bien, la science n'est pas si bien établie là-dessus, etc. Et donc, il manque de données encore pour pouvoir s'exprimer, ou certaines données sont un peu contradictoires. Alors que les scientifiques eux-mêmes, ça fait bien longtemps que sur ces domaines-là et ces questions-là ont acquis une certitude bien plus élevée. Et donc, c'est essayer d'immiscer le doute auprès de l'opinion publique, parce que ce doute va servir à une chose. En fait, il va permettre aux personnes qui n'ont pas envie de considérer qu'il existe un dérèglement climatique, soit pour leur confort intellectuel personnel, soit pour leur intérêt économique, de se saisir de ce doute et de se rassurer eux-mêmes en disant, en fait, c'est pas encore tout à fait sûr. En quelque sorte, ça vient donner des bonnes raisons aux gens qui n'ont pas envie d'y croire, de ne pas y croire. Et donc, cette entreprise, elle n'est pas nouvelle. Elle prend des formes nouvelles au fil du temps. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on constate, notamment sur les réseaux sociaux, des attaques très frontales sur la science du climat, avec des opérations qui sont pour le coup coordonnées, robotisées en partie. Les travaux de David Chavalarias, notamment au CNRS, avaient montré ça. Des attaques qui sont récurrentes, avec des thématiques précises. En France, on a aussi pu l'entendre dans la classe politique, au moment de la question de la pollution des voitures thermiques versus électriques, où tout à coup, on a un discours qui vient de dire, mais en fait, les voitures électrique pollue beaucoup plus encore que les voitures thermiques. Voilà, c'est essayer d'insinuer le doute sur les causes, les origines et sur les solutions aussi.
Mais quand on entend Michel Onfray ou d'autres, en fait, c'est pas forcément l'objet d'une instrumentalisation, c'est pas forcément un grand manipulateur. On peut aussi se dire qu'il y croit vraiment. Enfin, c'est-à-dire que quand on a cette parole-là, puisque vous parlez justement des différents biais, vous êtes en sciences sociales aussi, vous dites parfois on n'a pas envie d'y croire, on n'a pas envie d'adhérer à ce discours-là pour notre confort. Il y a aussi beaucoup de gens qui le font, tout simplement. Simplement parce qu'ils se sentent plus confortables à l'idée de propager ces messages-là.
C'est ça, la question est moins de savoir si, ici en l'occurrence, Michel Onfray croit à ce qu'il dit. J'espère pour lui qu'il n'y croit pas trop d'ailleurs, mais la question n'est pas de savoir s'il croit à ce qu'il dit. La question est de savoir plutôt pourquoi une télévision lui donne droit de citer et d'exprimer ce point de vue qui ne représente pas du tout ce que la science nous dit sur le sujet. Et d'ailleurs, un extrait très proche de celui que vous venez de passer circule abondamment sur les réseaux sociaux actuellement, avec énormément de physiciens qui se moquent ouvertement de ces propos en disant mais les trous de vers la physique quantique, etc. Ça n'a rien à voir avec ces questions de réchauffement climatique. Donc, bien sûr que Michel Onfray a le droit de s'exprimer dans un pays où la liberté d'expression existe, mais en revanche, là, on voit bien qu'il y a clairement quelque chose qui ressemble à un manquement de la part de la chaîne, qui consisterait à rappeler quel est le consensus sur la question scientifique, sur les sujets qu'il aborde ici directement.
Alors, Eva Morel, donc là, on a un cas de mésinformation ou de désinformation. Il aurait fallu qu'un journaliste soit là pour essayer de dire « Attendez, Michel Onfray, d'où tenez-vous vos propos ?» Surtout que Michel Onfray est un très bon orateur, donc il le dit avec assertion, il a une figure d'autorité, donc on peut facilement le croire, surtout quand on a envie d'y croire. Donc,
Comment on peut expliquer cette situation-là et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour trouver des solutions? Est-ce qu'il faudrait une loi pour encadrer tout ça? Là, on parle de CNews qui a été justement condamnée.
On est face à une information qui est fausse, peu importe comment on l'appelle, c'est complètement faux. Et dire des choses fausses sans contradiction dans un média qui a une fréquence de diffusion de TNT, en France c'est encadré. Il y a des dispositions qui sont régulées par l'ARCOM, notamment sur la rigueur et l'honnêteté de l'information, et aussi sur la diversité des points de vue sur des questions prétendues à controverses. C'est exactement les choses qu'on peut cocher quand on est sur le site de l'ARCOM, quand on est un citoyen et qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose qui est exprimé sans contradiction. Et c'est précisément là-dessus que CNews a été condamné à hauteur de 20 000 euros. Sachant que pour être condamné, il faut d'abord avoir été mis en garde, puis mis en demeure suffisamment de fois pour ensuite que ça justifie une première sanction financière. Donc ça veut vraiment dire que c'est pas la première fois que des sanctions aboutissaient. Et pour ce cas en particulier, nous on a saisi l'ARCOM, on est assez confiant du fait que ça aboutisse à une autre sanction, parce que c'est exactement le même grief que le précédent qui avait abouti à une sanction de 20 000 euros. Et ces sanctions, je pense que c'est important de dire qu'elles ne servent pas à rien. C'est ça qui a abouti à ce que C8 perde sa fréquence de diffusion TNT. Mmh. Donc c'est certes une accumulation de manquements qui aboutit à ce résultat, mais ça y participe. Hier soir, il y avait sur France 2 un complément d'enquête qui était très instructif sur la manière dont les chaînes Bolloré, et spécifiquement CNews, désinforment sur tout un tas de sujets. Et en fait, c'est en agrégeant tout ce faisceau d'indices aussi qui n'en font plus un moyen d'information, mais un moyen d'opinion et idéologique, qu'on peut aboutir à des choses radicales comme de supprimer la sanction, de la fréquence TNT. Mmh. Et juste pour dire, on pense aussi chez Quota Climat qu'il faudrait une loi pour étoffer les compétences de l'ARCOM dans un contexte où le climat autour de la régulation des médias se tend et que l'état du droit existant ne sécurise pas nécessairement l'ARCOM dans ses décisions.
Une proposition de loi qui pourrait prendre quelle forme, quelle terminologie?
Alors, il y en a une qui est discutée actuellement à l'Assemblée nationale, qui est signée par 100 parlementaires de 8 groupes politiques, qui s'intitule proposition de loi visant à protéger le droit des citoyens à une information environnementale de qualité. Et ça travaille sur la qualité et la quantité, puisque ça a été rappelé par Cyril Dion. Il y a une question aussi de mise à l'agenda suffisamment quantitative d'une thématique pour que ça se traduise en acte politique derrière. Nous, ce qu'on constate, c'est que cette mise à l'agenda quantitative, elle est largement insuffisante de manière chronique, donc ce serait important d'y remédier. Et le premier article de ce texte de loi, c'est précisément de renforcer les compétences de l'ARCOM pour reconnaître que l'état des connaissances scientifiques est un fait et pas une opinion.
Voilà, l'ARCOM, je rappelle, l'autorité qui est chargée justement de réguler notre espace médiatique et aussi un peu notre espace numérique informationnel. Laurent Corduny, vous n'êtes pas si favorable à une nouvelle loi?
Alors, c'est pas que je suis pas spécialement favorable ou non à une nouvelle loi. Je pense que la régulation, c'est pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre la mésinformation climatique. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais en tout cas, je pense que un aspect sur lequel il faut beaucoup plus insister, c'est sur l'importance de l'information correcte et de qualité. C'est-à-dire qu'on peut d'un côté lutter contre la désinformation, la mésinformation climatique, en essayant à chaque fois d'y répondre, de la débunker, de la fact-checker, etc., etc. C'est vertueux, effectivement, mais c'est une opération sans fin en réalité. C'est chercher à vider l'océan à la petite cuillère, surtout qu'on a des usines à production de ce genre de contenu en face, donc on va perdre ce combat à un moment donné. Je pense que ce qui est beaucoup plus important, c'est de mettre à disposition du public de l'information de qualité, au bon niveau d'accessibilité, de l'information qui soit complexe et profonde également, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance à nos concitoyens qui sont tout à fait capables de comprendre des réalités un peu complexes, pour leur montrer réellement que la question climatique, si sur son origine, ses causes, etc., est claire, il existe beaucoup de choses à discuter, à réfléchir collectivement sur les solutions qu'on va apporter au dérèglement climatique, et qu'il ne s'agit pas d'être dans une position idéologique de oui-non, etc., de rejet. Il faut éviter la situation américaine. Aujourd'hui, aux États-Unis, et ça n'a pas attendu Trump, d'ailleurs, avant lui déjà, dire croire au dérèglement climatique, c'était afficher un étendard politique. En fait, on donnait sa couleur politique en se prononçant sur cette question. Il faut absolument pas qu'en France, ça devienne ça. Parce que là, on est fichu, en fait. On va perdre une partie très, très importante de la population.
C'est là où ce que disait un peu Cyril Dion tout à l'heure, c'est-à-dire considérer que c'était une opinion comme les autres. C'est-à-dire que le dérèglement climatique, j'y crois pas, comme étant... Une surface tangible qui n'existe plus.
Donc, et d'ailleurs, en France, là-dessus, il faut quand même être assez rassurant, si je peux me permettre. Les études que je fais ou que d'autres font sur ce que croit la population française sur cette question montrent bien que les gens qui ne croient pas à l'existence du dérèglement climatique, la proportion de cette population française est très faible. On est à entre 5 et 7% de Français qui ne croient pas à l'existence du dérèglement climatique. En revanche, là où ça devient très intéressant et peut-être moins encourageant, c'est qu'on a encore un gros tiers aujourd'hui aujourd'hui de la population française qui pense que le dérèglement climatique est autant causé par l'activité humaine que par des phénomènes naturels. Et c'est là-dessus qu'on peut faire des efforts, parce que ces personnes-là ne croient pas à ça parce qu'elles ont envie d'être climato-sceptiques ou qu'elles sont complotistes ou que sais-je. C'est aussi par un manque d'informations de qualité. Et là-dessus, les médias peuvent, en France, faire et doivent faire mieux. Dans une étude...
Donc plus de formation, plus de journalistes qualifiés sur ces connaissances-là.
Oui, absolument. Et il faut saluer ce que les médias français ont déjà entrepris sur ces questions-là, hein, parce que c'est pas le cas dans tous les pays. Mais les médias français, sous l'incitation de certaines structures, de certaines associations, en effet, se sont mis à former davantage leurs journalistes dans tous les domaines sur les questions climatiques, ont pris des engagements, etc. Est-ce que c'est suffisant? Probablement pas. Est-ce que c'est un bon début? Assurément. Dans une étude conduite avec deux collègues, une étude internationale où on compare la situation dans 30 pays, on observe que en France, s'informer par les médias traditionnels est associé à une plus forte croyance dans l'existence du dérèglement climatique, dans sa cause anthropique, dans la gravité de ses conséquences, mais aussi à de meilleures connaissances factuelles sur le climat. Alors que s'informer par les réseaux sociaux est associé à l'inverse. Donc on voit bien que les médias ont l'air de quand même avoir un effet vertueux. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas le cas dans tous les pays. Par exemple, en Arabie Saoudite, c'est l'inverse. Ou en Chine, c'est l'inverse. Il vaut mieux s'informer par les réseaux sociaux dans ces pays-là que par les médias pour avoir des connaissances.
Vous voulez dire que dans les médias où les médias traditionnels sont plutôt assujettis à un média de pouvoir, voire des médias d'État, les réseaux sociaux permettent d'échapper à la censure, et donc le public se dit que la vérité se trouve plus dans cet angle mort du champ médiatique classique, ce qui est à l'inverse dans des pays démocratiques comme le nôtre.
C'est ça, pour expliquer ces variations internationales. Dans notre étude, on a pris un indice qui est assez simple, c'est celui de la liberté de la presse, produit chaque année par Reporters sans frontières, et on voit une corrélation très nette. Plus la liberté de la presse est élevée dans un pays, plus les médias sont vertueux en termes d'information climatique. Et à l'inverse, les réseaux sociaux deviennent un peu une béquille dans les pays dans lesquels la liberté de la presse et la qualité des médias est suffisamment faible pour qu'il devient presque favorable, et il devient même dans certains cas favorable, visiblement, de s'informer sur les réseaux sociaux où on va croiser toutes sortes de mésinformations, de désinformations, mais aussi, au gré de la navigation, des comptes de climatologues de premier plan, etc., qui donneront aussi une information de qualité.
Eva Morel ?
Juste pour réagir, parce que je partage la partie incitation, mais je pense que c'est important de rappeler qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont profondément, idéologiquement, économiquement opposés à parler de ces sujets, et que l'incitation n'y pourra rien, et que c'est pour ça que la loi et les sanctions, donc appliquer le droit, mais aussi renforcer le droit, c'est si puissant, parce que ça désincite des acteurs dans un moment qui est charnière, et c'est pour ça qu'on y croit aussi fort. Aujourd'hui, on voit que certains médias en ont fait un sujet de clivage, comme ce qu'on observe et ce qui a été décrit aux États-Unis, et c'est en train de se renforcer à vitesse grand V, et honnêtement, il y a que les sanctions financières à date qui ont fait switcher d'état d'esprit. C'est...
Ça ne sera pas 20 000 euros et Eva Morel qui va faire switcher, comme vous dites, ou basculer un groupe comme Bolloré. Hein.
Non, mais c'est un symbole fort. Ça veut dire que le régime d'impunité dans lequel on était jusqu'à présent est en train de se craqueler. Et nous, on a besoin d'établir un rapport de force en tant que citoyen qui est inquiet sur ces sujets. Et ce rapport de force, à date, il n'existait pas. Donc, bien sûr que ça paraît rien parce que c'est le début, mais on a besoin de le renforcer.
Surtout quand on a l'impression dans le groupe Bolloré que toutes ces condamnations les renforcent comme étant des personnages ou des entités anti-système et qu'on veut éviter qu'ils disent la vérité. C'est toujours comme ça, en tout cas, que l'interdiction est reprise. Et vous l'avez vu, effectivement, une chaîne a perdu sa fréquence comme C8 sur la TNT, mais les propos qu'on vient d'entendre sont sur CNews, donc c'est compliqué. J'entends que symboliquement le mot est fort, mais à partir du moment où il y a une telle volonté d'amener ce discours-là et ce narratif-là, c'est assez compliqué de réagir, Cyril Lion.
Ouais, c'est compliqué de réagir, mais pour moi, ça pose un problème plus vaste que le problème des médias. Ça pose un problème démocratique. Là, vous l'évoquiez tout à l'heure, on est en train de faire un film qui s'appelle Démocratie maintenant avec Paloma Moritz, qui est journaliste pour Blast. Parce que la démocratie repose quand même sur le fait qu'on puisse s'entendre sur le réel, qu'on puisse se mettre d'accord sur les faits. On parlait tout à l'heure de la fabrique du doute, qui effectivement est pas récente, hein. On pourrait relire le livre, par exemple, de Naomi Oresk, Les marchands de doutes, qui a quand même un certain nombre d'années, et qui raconte effectivement comment l'industrie du tabac, comment l'industrie chimique, et aussi comment l'industrie pétrolière a construit du doute sur un certain nombre de sujets pour protéger ses intérêts privés. Là, quand vous construisez du doute, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de vous dire « Ok, il y a un réchauffement climatique et ce sont les humains qui sont responsables de ce phénomène », vous pouvez pas vous mettre d'accord sur des solutions pour résoudre le problème. C'est exactement à ça que ces acteurs essayent d'aboutir. Donc aujourd'hui, on a besoin de construire aussi des mécanismes démocratiques qui incluent effectivement une presse la plus indépendante possible, un service public fort, où effectivement les faits sont sourcés. Parce que théoriquement, qu'est-ce qui nous permet dans une démocratie de nous mettre d'accord sur le réel? De nous mettre d'accord sur une interprétation subjective du réel, parce qu'elle est toujours subjective. C'est théoriquement la science. C'est-à-dire que la science est censée s'approcher au plus proche d'une description objective des faits, et les journalistes, qui théoriquement, dans leur déontologie, sont supposés croiser leurs sources, penser contre eux-mêmes, vérifier plusieurs fois qu'une information se recoupe. Et là, on est face à des médias qui deviennent des médias d'opinion, en fait. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'effectivement, il y a des puissances financières considérables qui achètent des médias et qui ont une puissance de feu terrible. Moi, j'en ai fait les frais moi-même. C'est-à-dire que je vois bien, en fait, que il y a des agences qui travaillent aujourd'hui pour des médias, par exemple, de Vincent Bolloré, qui construisent des éléments de langage pour discréditer des propos des personnes ou pour répandre des informations.
Alors vous dites en avoir fait les frais. Est-ce que c'est très récemment sur les propos que vous avez tenus dans C'est dans l'air et la polémique a été suscitée, qui a été amplifiée, je le rappelle quand même pour celles et ceux qui seraient passés à côté, vous étiez invité donc dans l'émission de France 5 et vous avez déclaré le terroriste islamiste ça a fait 273 morts en France, la pollution de l'air ça a fait entre 500 000 et 1 million de morts en 10 ans. Qu'est-ce qui nous rend le plus en insécurité? Et c'est ces propos-là qui ont été déjà ces propos vous les remettez un peu en question, vous dites qu'ils étaient peut-être maladroits, ou vous les maintenez?
Non, en fait, c'est quelque chose que j'avais déjà dit sur France Inter il y a 6 mois qui n'avait fait réagir absolument personne.
Vous savez comment c'est. Propos d'hier, ça dépend du timing et du moment.
Exactement. Donc, ce que j'ai dit, effectivement, c'est que c'était extrêmement maladroit de parler de terrorisme islamiste 2 jours avant le 13 novembre, qui était la commémoration des attentats. Effectivement, ces propos ont été sortis de leur contexte. C'est-à-dire que le contexte global de la conversation, c'était de dire, en fait, on parle toujours d'insécurité à travers un angle qui est celui de l'immigration, de la délinquance ou du terrorisme, mais on ne parle jamais de la sécurité sous l'angle de l'insécurité dans laquelle la question écologique nous met. C'est-à-dire d'avoir dépassé 7 des 9 limites planétaires, d'avoir dépassé un des 16 points de bascule climatique, que des scientifiques nous disent aujourd'hui on pourrait arriver à 1 milliard de morts à la fin du siècle à cause du changement climatique. Ce sont des choses qui nous mettent profondément en insécurité. En disant ça, je ne minimisais pas, je ne comparais pas les morts, je comparais le traitement, en fait, de la question de l'insécurité et l'angle par lequel on le prenait. Et je disais absolument pas que le terrorisme, c'était pas important, qu'il fallait pas lutter contre, que c'était pas atroce de mourir du terrorisme. Je ne disais pas tout ça. En revanche, ces propos ont été effectivement décontextualisés. Et en fait, on a découvert qu'ils ont été repris par une agence de presse.
Qui s'appelle comment ?
Qui s'appelle Progressif Média, et qui, en fait, c'est exactement ce que décrivait Eva Morel. C'est-à-dire que, en fait, on retrouve exactement les mêmes éléments de langage. C'est-à-dire que si vous faites un copier-coller et que vous cherchez dans Google, en fait, vous retrouvez les mêmes éléments. Donc ça, c'est le signe que c'est une agence de presse, comme l'AFP, qui parfois, en fait, fait des communiqués.
Et on a des informations sur l'origine de Progressif Média ?
On a des fortes suspicions, puisque c'est une enquête qui a été menée, notamment par France Info, sur le fait que cette agence a ce type de pratique-là. Donc on suspecte que c'est le cas à ce moment-là. Et on a vu, en fait, la mécanique qui est décrite par France Info se reproduire. C'est-à-dire que ça commence dans un média du groupe Bolloré, en l'occurrence Europe 1, qui n'est pas dirigé, en fait, vraiment contre moi. C'est-à-dire qu'on m'utilise plutôt pour dire « vous avez dit ça sur le service public » et on laisse dire ça sur le service public avec vos impôts. Donc c'est une attaque contre le service public, et on sait en fait que le groupe Bolloré est en guerre contre le service public, et qui ensuite suit la chronologie, c'est-à-dire on fait CNews, on fait le JDD, on fait Paris Match, c'est-à-dire on fait tous les médias du groupe Bolloré.
Avec différentes caisses d'amplification.
Et on fait effectivement monter cette polémique, qui en fait c'est une mécanique de dénigrement, qui ensuite provoque une vague de haine, c'est-à-dire que moi j'ai reçu des menaces de mort, j'ai reçu des menaces physiques, j'ai reçu des intimidations, des insultes, des tombereaux d'insultes, pour un propos qui, encore une fois, avait été sorti de son contexte et qui, en plus, a donné lieu à de la désinformation ensuite. C'est-à-dire que sur CNews, par exemple, il y a eu des conversations pour dire les chiffres de la pollution de l'air, on leur fait dire n'importe quoi, on n'est pas sûr que ça existe. Ce chiffre de 500 000, en réalité, c'est Santé publique France qui dit que c'est entre 40 et 48 000 personnes qui meurent chaque année de la pollution de l'air. Et il y a une étude anglaise qui, en fait, dit que c'est sans doute largement sous-estimé et qu'on est plutôt aux alentours de 100 000 morts par an. Tout ça était sourcé dans une tribune que j'avais faite dans Le Monde. On avait bien vérifié justement avec les journalistes du Monde ces chiffres-là, qui venaient d'articles du Monde. Donc, parce que eux-mêmes me disaient, mais d'où viennent ces chiffres? Je dis, bah, ça vient de vos collègues. Donc, je les ai renvoyés vers les articles de leurs collègues. Et le journaliste du Monde me dit, bah, effectivement. Et donc, sur les plateaux de CNews, c'était, on n'est pas sûr de ces chiffres, on leur fait dire n'importe quoi. Ils
l'opération a été réussie dans le sens où ça a jeté le discrédit sur vos propos, les autres propos, en se servant de cette polémique qui a été amplifiée, et le même sur le discrédit même de votre parcours. Du coup, votre parole, l'idée, c'est de l'entacher de ce soupçon.
Exactement.
Que vous êtes très peu sensible aux victimes du terrorisme et que vous faites des comparaisons en essayant d'analyser tous les malheurs du monde.
Et c'est absolument la stratégie, c'est-à-dire que c'est de discréditer le messager en même temps que de discréditer le propos en lui-même.
France Culture.
L'astronome canon, on le réinvite quand il veut, mais celle qui nous hurle dessus, c'est moins sûr.
C'est moins sûr.
La fabrique de l'information.
D'après le vautour, c'est demain qu'on doit tous mourir.
François Celtiel.
Les stratégies de la désinformation à l'œuvre concernant le discours climatique, la cause environnementale, c'est notre sujet de cette semaine en compagnie d'Eva Morel, qui est secrétaire générale de l'association Clota Climat, avec Laurent Cordonnier, qui est docteur en sciences sociales, directeur de la recherche à la Fondation Descartes, et avec le réalisateur, auteur, Cyril Dion. C'était intéressant ce qu'on vient de se dire autour des différentes stratégies de manipulation, du discrédit. J'aimerais vous faire écouter, puisqu'on nage en plein dans la confusion des propos, d'un ancien rapporteur, ancien personne qui appartient au groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat du GIEC de 2023. Il s'appelle François Gemène et il était récemment dans un émirat pour nous parler de Saint-Gobain.
Bienvenue pour un nouvel épisode du Tour du Monde des 360 ans du groupe. Dans cet épisode, nous allons tenter de répondre à une question essentielle. Comment améliorer le confort pour tous? Dans cet environnement à la chaleur extrême et qui évolue très vite, il faut impérativement repenser notre conception du confort pour à la fois protéger la planète et répondre aux besoins de chacun.
Alors François Gemène, on le connaît bien sur les antennes du service public, notamment puisqu'on l'a invité de nombreuses fois ici à France Culture, sur France Inter, sur France Info, où il tenait même à un moment donné une chronique. C'était une des figures, c'est toujours une des figures de la parole engagée par rapport à la cause environnementale. C'est un, ce qu'on appelle dans le jargon, un bon client, quelqu'un qui était disponible, qui s'exprime bien, qui avait une crédibilité, qui a été, je le disais, auteur d'un dernier rapport du groupe du GIEC, chercheur spécialiste des migrations, et qui aujourd'hui fait de la publicité, il faut le dire, pour Saint-Gobain. On ne connaît pas les contours, mais c'est évident qu'il y a une rémunération derrière. Comment on peut interpréter ça? Parce que j'avoue que moi, ça m'a surpris, par exemple, de voir, peut-être moins vous, mais moi, ça m'a surpris de voir François Gemène d'un coup devenir l'étendard de Saint-Gobain dans l'Émirat, dans les Émirats. Eva Morel.
Mais c'est peut-être précisément cette émotion forte qu'il faut interroger, puisque si ça nous fait autant réagir qu'un ancien scientifique du GIEC travaille pour une entreprise privée à faire de la promotion dans un pays qui est ouvertement opposé à l'ambition climatique internationale, c'est peut-être qu'il y a un problème quelque part. Ceci étant dit, c'est un peu compliqué, je trouve, de faire réagir les défenseurs de l'environnement sur d'autres défenseurs de l'environnement, parce que le réflexe dans ce type de polémique, c'est de vouloir nous opposer les uns aux autres en donnant à voir les failles déontologiques des confrères et des consoeurs. Et en fait, on a pris la décision avec Clota Climat de ne pas réagir par rapport à cette séquence. On en a beaucoup débattu en interne, parce qu'on s'est dit, dans un climat de vague de haine par rapport à la science du climat et à quel point les scientifiques sont attaqués individuellement, peut-être que c'est pas l'occasion d'en rajouter une couche, celui-ci. En revanche, oui, ça interroge profondément sur ce que ça signifie d'être scientifique et d'engager sa réputation et celle de sa profession.
Alors, je comprends que vous ne vouliez pas réagir et vous remarquez que je n'ai pas fait part justement des propos d'Hugo Clément concernant vos propos de Cézanne, où vous avez été également attaqué. Mais là, la question de François Gemène me semble encore plus intéressante et à mon avis plus pertinente, puisque, encore une fois, c'est une figure médiatique qui, d'un coup, fait la promotion de Saint-Gobain. Alors, si vous ne voulez pas réagir, Eva Morel, peut-être que Laurent Cordonnier va en dire un mot, ou Cyril Dion.
Non, c'est vrai, là-dessus, sur cette affaire, il faudrait lui demander à lui directement de quoi il en retourne. Ce qui est clair, c'est que c'est pas nouveau qu'on demande contre rémunération, dans certains cas non, à des scientifiques qui ont une visibilité de défendre la cause de certaines industries. Ça s'est vu dans d'autres cas, etc. Les scientifiques ont une liberté d'expression, ils ont une liberté académique aussi qui leur permet de prendre des positions qui sont les leurs. Le problème que ça souligne plus, c'est en fait un problème qui est qui est inhérent à la communication sur la science, c'est la question de la personnalisation des messagers. On a besoin, dans les médias, vous l'avez rappelé, de figures qui soient connues.
D'incarnation,
etc. Le problème, c'est que quand on incarne, on a affaire à des hommes et à des femmes. À des hommes et des femmes qui peuvent avoir des failles, qui peuvent avoir d'autres intérêts à un moment donné, etc. Dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Et donc, on prend toujours le risque de faire peser la crédibilité du discours scientifique sur les épaules d'individus qui sont faillibles par définition. Et d'ailleurs, toute l'entreprise scientifique s'est construite de manière à désindexer la production de connaissances des individus. En science, quand vous produisez de la recherche, quel que soit le domaine, des sciences sociales jusqu'à la physique quantique, pour parler comme Michel Onfray, dans toutes les sciences, on produit de la connaissance de manière anonyme, qui est revue par des pairs de manière anonyme, qui est ensuite passée par un comité d'experts au sein d'une revue, qui ensuite est publiée, etc. Et tout ça, c'est fait pour que ça ne se repose pas sur les individus. En tant qu'individu, on a tous nos biais, on a tous nos intérêts idéologiques, on a nos intérêts partisans, etc. On voudrait que tel résultat soit vrai, donc on va s'auto-convaincre dans certains cas qui sont vrais. Et toute l'invention de la science, ça a consisté à trouver des méthodes pour que la vérité qui sort du discours scientifique ne soit plus indexée à la parole individuelle. En revanche, comme on a besoin de ces incarnations, on a tout un système aussi qui vont récompenser. Regardez les prix Nobel. Les prix Nobel, on aimerait tous en avoir un au jour, bien entendu, peut-être moins que Donald Trump, mais peut-être qu'on le désire tous. Et quoi qu'il en soit, c'est récompenser une individualité singulière en oubliant que la science est une entreprise collective. Et que ce qui fait qu'on peut dire aujourd'hui j'ai confiance dans les rapports du GIEC, c'est précisément parce que c'est un travail collectif reposant sur des milliers de chercheurs qui ont produit des recherches de leur côté, ensuite des centaines de chercheurs qui vont synthétiser ces recherches en suivant des méthodologies, etc. Donc peut-être qu'il faudrait trouver un jour le moyen de moins indexer la science sur des individus particuliers.
Vous avez raison, parce que les individus, par définition, sont un point de vulnérabilité, puisqu'il suffit peut-être de promettre un gros chèque pour que d'un coup, la grande cause... Et on l'est tous, puisqu'on l'est tous failli. Mais pourtant, la cause écologique, on a besoin des Cyril Dion, vous êtes une incarnation, on a besoin de Camille Etienne, qui en est une autre. Enfin voilà, sans ces incarnations-là, je pense que la cause aurait du mal à avancer.
C'est vrai qu'après, chacun se donne des codes de déontologie. Mais je pense que sur un certain nombre de sujets, là on parle des scientifiques, on pourrait aussi parler des responsables politiques, on a besoin d'avoir des règles par rapport à ça. La question de ce qu'on appelle en anglais des revolving doors ou du pantouflage en français, c'est-à-dire des personnalités politiques qui vont ensuite travailler pour des secteurs privés.
Comme ça arrive tout le temps. Hein.
Comme ça arrive tout le temps et qui retournent dans des fonctions politiques et qui, comme par miracle ou par hasard, se mettent à favoriser un certain nombre de secteurs industriels pour lesquels ils ont travaillé ou dont ils ont perçu de l'argent. Récemment, par exemple, l'Obs révélait que Rachida Dati, en 2010 et 2011, aurait perçu 300 000 euros d'Engie, donc entreprise qui fournit des énergies fossiles. Et comme par hasard, Rachida Dati, à ce moment-là, avait des prises de parole qui étaient très favorables à l'industrie pétro-gazière. Donc, on a quand même besoin de pouvoir se reposer sur des gens dont on peut vérifier une forme de probité. Donc là, je connais pas les contours de la collaboration de François Gemène avec Saint-Gobain, mais c'est vrai que se prémunir, en tout cas, de la mention, de l'étiquette du GIEC, ne doit pas ensuite permettre à des scientifiques d'aller juste gagner de l'argent pour intérêt personnel.
Même si jamais, j'imagine, si on lui avait posé la question, on aurait eu un discours de oui, mais pour que les choses changent, faut être dès l'intérieur, faut être dans l'intérieur de la machine, dans l'intérieur du système, sinon on n'y arrivera jamais. Donc c'est parfois souvent ce genre d'argument que l'on entend, peut-être pas dans ce cas précis, mais c'est un argument classique, Eva Morel.
Oui, et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit dans les médias quand il a été interrogé sur le sujet. Il a dit qu'il fallait travailler avec tout le monde autour de la table, avec les entreprises. Pour revenir au sujet de la COP, parce que c'était un gros débat qu'il y avait au niveau du Brésil, qui a mené un bras de fer très important avec les big tech ces derniers mois pour protéger les consommateurs d'informations en ligne. Et en fait, ils se sont retrouvés dans un cas de... Enfin, un dilemme assez important où ils voulaient faire en sorte que la déclaration sur l'intégrité de l'information sur le changement climatique, donc cette fameuse déclaration qui permet de lutter contre la désinformation, soit la plus largement partagée et signée par les États. Et toutes les big tech qui avaient sponsorisé en plus certains éléments d'organisation de la COP, qui voulaient absolument parler avec eux. Et en fait, énormément d'organisations de la société civile se sont dit, mais parfois... Même parler avec un industriel, c'est une ligne rouge parce qu'on sait qu'ils vont nous convaincre, parce qu'on sait qu'ils ont des arguments qui... En fait, il y a beaucoup d'interpersonnels qui rentrent en jeu. Et en fait, d'avoir un représentant de Big Tech qui parle avec le président de la COP, ça n'a rien d'anodin. Même si on se prémunit d'un point de vue connaissance de fond, etc., on pourra toujours être convaincu. Donc je pense que c'est aussi important à avoir en tête parce que
Oui, mais alors du coup, on fait quoi? On se parle plus les uns les autres?
Non,
mais il faut des règles, en fait. C'est exactement ce que...
Non, mais il faut des règles, et puis... Il faut pas être naïf, c'est-à-dire que bien sûr que c'est moi ça m'est arrivé plein de fois de parler avec des dirigeants de multinationales, de grandes banques, mais simplement si vous êtes payé par ces gens et si ces gens utilisent votre image, on
là,
voit bien
différent.
qu'on n'est plus dans une relation qui est saine et qui est dépourvue de toute capacité d'influence.
Mais je crois que Eva Morel là parlait pas forcément de rémunération qui serait liée à cette collaboration là. On est d'accord que si vous êtes payé, vous devenez l'étendard, vous êtes récupéré et là vous êtes au service d'une marque, d'une cause ou d'un état.
Je pense qu'en tout cas ça empêche d'avoir des discussions constructives. Et puis après il faut, après ça vient avec avec l'expérience, la culture politique. On connaît les stratégies des entreprises et des multinationales au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on est capable aussi de décrypter un certain nombre de discours qui, sur le papier, ont l'air vraiment extrêmement progressistes. Quand Total vous dit, mais bien sûr, nous, on va devenir, en fait, le premier fournisseur d'énergie renouvelable et on va faire cette bascule et que vous voyez qu'en fait, il y a encore 70% des investissements de l'entreprise qui vont vers les énergies fossiles. Bon, vous dites, là, c'est pas ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Mais ce que vous faites, c'est encore autre chose.
Eva Morel.
Je pense aussi que c'est important de rappeler la valeur de l'interpersonnel et pourquoi le lobbying fonctionne et pourquoi est-ce que les messages et la connaissance percolent et touchent les sentiments. C'est parce que précisément on côtoie des gens. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que les revolving doors c'est si problématique puisque on se retrouve à revenir dans des institutions en portant les intérêts.
Les portes dérobées, on sort d'un univers pour y revenir dans d'autres.
Et en fait, c'est ce qui se passe dans des instances de prise de décision très resserrées, où en fait, on se retrouve à côtoyer les personnes, on est très inconfortable ensuite à les critiquer publiquement, voire à les réguler. Et c'est aussi précisément pour ça que la science est censée se détacher de ses intérêts privés, parce qu'elle documente, elle objective des phénomènes qui impliquent des intérêts personnels et des individus. Si on les connaît, c'est beaucoup plus difficile de jouer ce rôle.
Et j'ajoute juste un tout petit mot là-dessus. Le film, là, justement, qu'on est en train de faire, s'appuie aussi sur l'expérience, par exemple, qu'on a eue de la Convention citoyenne pour le climat, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes démocratiques qui permettent aussi de contourner ça. C'est-à-dire que quand vous prenez des personnes qui sont tirées au sort, qui sont représentatives de toute la société française, que ces personnes-là, en fait, viennent pour une durée extrêmement limitée, pour travailler sur un problème d'intérêt général, elles sont beaucoup moins sujettes à ce type de phénomène. Elles sont beaucoup moins sujettes à de la corruption ordinaire, elles sont beaucoup moins sujettes à de la relation interpersonnelle. On a copiné, et donc, comme on a copiné, on va pas dire du mal l'un de l'autre, ou alors on va se rendre des services et on va se renvoyer l'ascenseur. En fait, on re-rentre dans quelque chose où on a des personnes qui viennent, comme dans un jury d'assises, se mettre au service de l'intérêt général pour un temps donné. Et il se trouve que dans l'immense majorité des cas, et c'est pour ça que moi je crois que transformer nos modalités démocratiques est une des voies pour résoudre le problème climatique, dans l'immense majorité des cas, ces personnes tirées au sort formulent des propositions qui sont infiniment plus ambitieuses, et donc qui sont infiniment moins sujettes à des influences. Aujourd'hui, l'immense majorité des décisions publics sont orientés par les 10% les plus riches de l'élite économique, pas par les électrices et les électeurs. Donc revenir à un système où chacun d'entre nous, dans un contexte où on est tous dans la même pièce, on a tous accès à la même connaissance en même temps, une connaissance qui est vérifiée, sourcée, et ensuite où on a la possibilité de délibérer, ça on voit que ça produit des choses qui sont très différentes de ce qu'on a dans la démocratie représentative, qui est sujette à toutes les attaques dont on parlait à l'instant.
Encore faut-il s'en saisir, quand on est un personnage politique, de justement tous ces travaux qui ont pu être faits sur la Convention citoyenne, Convention climat, par, vous le dites très bien, des citoyens qui ont travaillé pendant très longtemps sans être experts du sujet. Il y a eu des propositions, mais le politique a pu aussi les balayer d'une certaine manière. Enfin, il y a eu en tout cas un sentiment de déception et de manque de reconnaissance à cet endroit-là. Mais peut-être, pour faire réagir Laurent Corduny, à ce qui vient d'être dit sur la question du dialogue, avec qui on dialogue, comment on dialogue, quel est votre avis sur la question?
Je pense qu'on, de toute façon, ce qui est, à mon avis, assez certain, c'est qu'on n'aura pas de transition sans embarquer les entreprises avec nous, dont la transition. La transition, elle ne pourra pas se faire contre une partie de la population, surtout quand cette partie-là est potentiellement la partie qui a le plus d'influence sur la marche économique et politique du monde. Donc, il va falloir travailler avec ces structures-là. Je pense aussi que, très honnêtement, personne n'a intérêt au dérèglement climatique. Personne n'a envie de le voir advenir. Il y a des entreprises qui vendent des produits qui participent au dérèglement climatique et qui n'ont pas forcément intérêt à arrêter de vendre ces produits. En revanche, ces entreprises-là, il faut les contraindre par des mesures légal, par de la réglementation, etc., à changer de business model. Et c'est l'espoir qu'on peut avoir. Je pense que si on rentre dans une confrontation un peu un peu naïve en partant en guerre contre l'industrie de manière générale, etc. On n'aboutira pas à grand chose parce qu'on aura un blocage en face qui sera de toute façon plus fort que tout ce qui peut être produit par ailleurs en force d'avancer. Et c'est pour ça aussi que je pense que sur ces questions climatiques, il faut trouver le moyen, il faut trouver le minimum point d'accord commun entre les acteurs pour commencer à avancer.
C'est pour ça que vous cherchez à dépolitiser, du moins dans les clivages, justement ces questions-là, mais on voit que c'est pas évident puisque
dépolariser,
oui, mais comme plusieurs parties s'en saisissent comme étant un moment d'affirmation aussi.
Le climat est un sujet éminemment politique dans le sens où, de toute façon, il implique un discours sur la société telle qu'elle est, telle qu'elle devrait être et telle qu'elle sera demain. Donc c'est politique. Par contre, ça peut être moins politisé dans le sens où on peut se dire qu'on se retrouve non seulement sur un ensemble de faits minimaux, qui relève de la science, qu'on va pas discuter en tant que tel. Et ensuite, on peut se retrouver sur un objectif commun qui est celui d'une situation qui est plus désirable demain que celle qui adviendra si on ne fait rien. Et après, c'est là que s'ouvre l'espace politique. C'est qu'est-ce qu'on fait pour arriver à ce lendemain qui est plus désirable que si on ne fait rien. Et donc, ça, c'est l'espace de discussion politique et démocratique. Là, les points de vue militants, les points de vue partisans, etc., peuvent tout à fait s'exprimer pleinement. En revanche, il faut qu'on arrive à créer ce terrain commun d'entente sur la situation et la volonté d'en sortir.
France Culture, la fabrique de l'information.
Et si, pour lutter contre la désinformation climatique, la solution, ou du moins une des solutions, on sait très bien qu'il y en a d'autres, Cyril Dion, vous parlez justement de démocratie tout à l'heure, de la préservation de nos valeurs démocratiques, et si la solution se trouvait là où on ne l'attendait pas forcément, dans l'humour, Sacha Michel.
Et c'est ce que défend la dessinatrice espagnole Hache dans le journal catalan La Vanguardia. Prenez l'une de ses vignettes postées sur Instagram, on y voit quatre petits personnages qui incarnent l'hiver, le printemps, l'été et l'automne, assis côte à côte dans le métro. L'été est représenté par un type baraqué qui envahit l'espace du printemps à sa droite et de l'automne à sa gauche. On la connaît, cette période estivale qui prend ses aises, ce mercure qui grimpe trop tôt dans l'année et qui peine à redescendre après les grandes vacances. Pour Hache, qui croque depuis 6 ans la crise climatique, notamment pour la presse, aucun doute, ce genre de trait d'humour simple et percutant est un atout majeur pour sensibiliser au dérèglement climatique. Elle l'a constaté elle-même avec ses parents, impossible de leur parler du sujet, sauf lorsqu'il est question d'en rire un peu.
Et l'idée derrière, c'est de désamorcer.
Exactement. L'humour permet de toucher les gens en douceur, soutient Hache. C'est un moyen de sensibiliser sans donner l'impression de sermonner. Et la dessinatrice n'est pas la seule à le penser, nous dit La Vanguardia. Deux professeurs en communication et en journalisme, Daniel Cano et Alex Moersa, ont épluché des centaines de cartoons portant sur le climat. À noter que c'est un genre assez répandu de l'autre côté des Pyrénées. Et leurs conclusions publiées en février sont formelles. Selon eux, les éléments satiriques et comiques contribuent à toucher un plus grand nombre de personnes et à faciliter la prise de conscience. Surtout, si en prime, le message comporte une note d'espoir et des solutions concrètes. Ils conseillent même désormais aux institutions publiques de s'emparer de l'humour dans leur campagne de sensibilisation.
Alors, s'emparer de l'humour, c'est pas un peu périlleux tout de même pour un sujet aussi sérieux ?
De prime abord, c'est vrai. Mais selon La Vanguardia, pour être réceptif à la gravité d'un problème, mieux vaut avoir l'esprit détendu. Les discours scientifiques sont bien sûr très importants, mais l'envie d'agir serait dans une certaine mesure stimulée plus par l'émotion que par la raison. Après, attention, prévient La Vanguardia, l'idée n'est pas de raconter n'importe quoi. C'est un vrai boulot, l'humour climatique. Il faut d'abord comprendre les sujets, les analyser, avant de restituer l'information dans un langage simple et accessible à tous. Cette approche prémâchée, elle peut surtout s'avérer efficace sur les réseaux sociaux, conclut Le Quotidien, dans une époque où les contenus sont éphémères et vite oubliés dans nos fils d'actualité.
Alors pourquoi ce journal espagnol catalan, vous le prononcez trop bien, donc je ne me risquerai pas à le faire, puisqu'il dispose d'une version justement en langue catalane, s'est-il penché sur le sujet ?
On a envie de dire que tout est dans le nom. La traduction en français de La Vanguardia, c'est « l'avant-garde ». Fondé en 1881 à Barcelone, c'est l'un des plus vieux journaux espagnols. Au début du XXe siècle, le journal a été pionnier dans la protection sociale de ses salariés. Plus tard, ses colonnes se sont ouvertes aux républicains pendant la guerre civile espagnole. Aujourd'hui, c'est le troisième journal généraliste le plus lu d'Espagne. Il est progressiste, libéral sur le plan économique et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, farouche partisan de la lutte contre le dérèglement climatique. Un exemple, le journal a longtemps reproché au gouvernement catalan son manque d'action. pas assez d'éoliennes, pas assez de panneaux solaires dans une région qui ne manque pourtant ni de vent ni de soleil. La Catalogne, petit aparté, c'est 4,8% de la génération totale d'énergie renouvelable en Espagne. Plus récemment, le 24 novembre, le journal s'en est pris aux conclusions de la COP30 à Belém. L'absence d'avancées concrètes au sujet de la réduction des énergies fossiles est qualifiée dans un éditorial d'à peine croyable. Pour le coup, au vu des termes employés forts, la Vanguardia n'avait pas très envie d'en rire.
Sacha Mitchell, donc, pour cette chronique de Courrier International à retrouver sur le site de Courrier ainsi que sur le site de Radio France. Vous voyez, Cyril Dion, on a Sacha Mitchell qui est chroniqueur ici dans la fabrique de l'information, comme vous l'étiez chroniqueur à côté de ce studio sur France Inter dans la Terre au Carré, mais vous n'y êtes plus.
Eh ben non.
Alors c'est ça, un choix, qu'est-ce qui s'est passé?
Non, c'est pas du tout un choix, c'est un choix de la direction de France Inter d'avoir raccourci la Terre au Carré de 15 minutes. Et les 15 minutes qui ont été raccourcies étaient les 15 minutes où il y avait toutes les chroniques. Et les chroniques qui étaient les plus engagées, les plus politiques, celles où il y avait des militantes et des militants, mais aussi des journalistes, de Vert, de Reporter, de Blast, Claire Nouvian, voilà. Donc c'est vrai qu'on a vu la surface, le temps consacré à l'écologie se rétrécir quand même significativement.
Alors, on peut plus vous entendre, mais on peut toujours vous lire, Cyril Dion, puisque ces chroniques sont publiées en ce moment. La lutte enchantée, comment garder espoir et lutter dans un monde qui bascule, c'est publié aux éditions Actes Sud, dont vous êtes très proche, puisque vous y menez une collection, ainsi que les éditions Radio France. Eva Morel, on a beaucoup parlé, justement, des groupes privés par rapport à la désinformation, la mésinformation. J'ai regardé votre classement, j'ai vu que le service public, dont on fait partie ici, se classe pas trop mal. Néanmoins, ce que vient de dire Cyril Dion, ou le fait de la disparition, c'est-à-dire qu'on est plutôt on est moins dans une question de désinformation que de disparition. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez de près?
Oui, en fait, on est assez inquiet par les attaques dont font l'objet l'audiovisuel public. Il y a une commission d'enquête qui a été lancée dernièrement à l'Assemblée nationale et dont la tonalité a été lancée. C'est très personnel, en fait, les attaques qui sont menées par notamment le vice-président de la commission d'enquête. On est inquiet de l'effet que ça a sur l'audiovisuel public et sur la programmation. En fait, les études en sciences sociales montrent quand même que quand l'extrême droite progresse dans un pays, les stratégies qui visent à s'en rapprocher ne sont pas fonctionnelles. Et pour autant, on a l'impression qu'en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On internalise la critique pour pouvoir s'en prémunir. Mais en fait, ça ne fonctionne pas puisque ça donne raison à ceux qui les tiennent. Et nous, c'est vraiment ce qu'on observe dans l'éditorialisation des questions d'environnement dans l'audiovisuel public. Je pourrais parler du 20h de France 2 qui nous inquiète beaucoup en ce moment, où les questions environnementales sont de moins en moins traitées. La COP30 n'a pas du tout bien été traitée, alors que les précédentes années, il y avait un vrai effort qui était mené.
N'a pas du tout été bien traitée ou n'a pas été traitée?
Ah non, elle a quand même été traitée, ça aurait été un peu un scandale de
manière. Non, mais je veux dire par là, est-ce qu'elle n'a pas été suffisamment traitée ou pour vous, elle a été mal traitée?
Je dirais tout simplement pas suffisamment, oui. Parce que c'est un sujet qui traditionnellement est traité au début des COP et à la fin des COP, si les fins sont concluantes. Là, en effet, c'était assez déceptif. Mais c'est pas pour autant que c'est pas intéressant de se saisir de ce moment de l'année pour parler d'environnement au sens large. Et ce qu'on a constaté, c'est que ça n'a pas été autant mené que les dernières années. Et des échos qu'on a, c'est aussi lié à la manière dont ces sujets sont perçus par les rédacteurs en chef de certains programmes. Et ça, pour nous, ça nous inquiète, encore une fois, parce qu'on pense que ces personnes sont aussi placées pour leur perception de ces sujets et leur mise en débat.
Laurent Cordonnier, vous plaidez pour un journalisme de solution justement concernant ces sujets-là, parce que dans les rédactions, on le sait bien, ce sont des sujets qui sont anxiogènes, parfois on se dit on n'a pas envie de faire peur à nos auditeurs, il faut trouver des solutions, ça devient des sujets aussi qui sont récurrents, donc qui peuvent devenir rébarbatifs au bout d'un moment, parce que dans les médias on adore les effets d'annonce, là c'est tout le temps un peu les mêmes annonces, même si elles sont amplifiées. La solution, ça peut être justement ce journalisme-là qui éclaire d'autres pistes.
Très probablement, ce que je vois dans les enquêtes que je fais pour la Fondation Descartes auprès d'échantillons représentatifs de la population, c'est que, comme je le disais en introduction, une part importante de la population, l'immense majorité de la population française croit qu'il existe un dérèglement climatique, mais aussi une très très grande majorité de la population a peur de la situation. Et donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est donner des raisons d'espérer. Parce que ce que j'avais également montré dans une autre étude, c'est que lorsque cette peur se mue en défaitisme, ça tue totalement l'envie d'agir. La peur est moteur à l'action. plus les personnes ont peur du dérèglement climatique, et à juste titre, parce que la situation est effrayante, plus ils sont favorables à des mesures contraignantes en faveur du climat. En revanche, quand cette peur se mue en défaitisme, quand on se met à penser « c'est foutu, il n'y a plus rien à faire », ça n'incite plus du tout à accepter des mesures contraignantes. Donc je pense que le journalisme de solution, c'est une voie pour donner une possibilité d'expression positive à cette peur, en disant qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Mais attention à une condition, c'est qu'il faut que le journalisme de solution soit un authentique journalisme d'investigation. C'est-à-dire que son travail doit consister à regarder ce qui existe sur la place publique, que ça vienne d'ONG, que ça vienne d'entreprises, que ça vienne de partis politiques, ce qu'il existe comme solution proposée, et d'investiguer sur ces propositions en regardant dans quelle mesure elles sont réalistes, dans quelle mesure elles seraient efficaces, quelles sont leurs limites, etc., etc. Et pour faire ça, l'investigation doit passer par la parole experte des scientifiques, par l'analyse scientifique de ces solutions. Donc, journalisme de solution, oui, à condition que ce ne soit pas un journalisme de promotion, de mesurette pour telle ou telle boîte, mais un vrai travail d'investigation journalistique.
Et pour mieux comprendre les contours du journalisme de solution, je renvoie à une de notre précédente émission sur la fatigue informationnelle que vous pouvez écouter en podcast dans la Fabrique de l'Information. Et puis peut-être le dernier mot, Cyril Dion, un des moyens aussi, c'est le cinéma, le documentaire. Donc c'est prévu pour quand ce nouveau film sur la démocratie ?
Alors déjà demain ressort au cinéma le 8 décembre. Exact, donc vous pourrez aller le voir dans 80 villes en France. Il y a un site internet que vous pouvez trouver près de chez vous. Et ce film sur la démocratie, l'objectif c'est de sortir au moment de la campagne présidentielle, donc soit décembre 2026, soit février 2027. Et si vous voulez nous aider à ce que ce film existe, il y a une campagne qu'on a lancée sur Ulule de financement participatif.
Oh, il est fort, Cyril Dion. Et voilà, tous les messages sont passés. Merci à vous trois, Eva Morel, Cyril Dion, Laurent Cordonnier pour cette émission, Sacha Michel pour la chronique de Courrier International. Je remercie la réalisation Sorge Leroy, à la vidéo Félix Delacour, et à la préparation de cette émission cette semaine, Victoria Géraud-Velmont.